La Malle au Sillon.
Souvenir, souvenir.
C'était il y a un an. La Voix des Sillons, numéro 26. Genre, alors moi je dis rock, certains en revanche, abusés par une certaine presse paresseuse, disent punk, quant à ceux qui ne connaissent que Golden Brown ou Always the Sun, ils disent pop. Mais c'est moi qui ai raison, ah bah ouais. Époque, depuis que j'étais jeune, à maintenant que je le suis moins, 47 ans on the road. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9. Mais je ne suis pas dupe, si on enlève les deux chansons déjà citées, la probabilité retombe à 5. Artiste, The Stranglers. Et pourquoi donc ai-je raison, si l'on accepte le fait que j'ai tout le temps raison? Écartons d'emblée l'idée saugrenue que les Stranglers puissent être un groupe pop, faut quand même pas pousser mémé dans les amplis, un groupe pop ne chante pas des trucs comme ça. Quant à pourquoi on les a souvent associés au mouvement punk de la fin des années 70, c'est simplement parce que c'était tentant et que ça mangeait pas de pain. Un premier album en 77, des paroles tout autant énervées que désabusées, une saine énergie sur scène, quelques controverses et polémiques dûment alimentées par une presse avide, et le tour était joué, les Stranglers se sont vite retrouvés marqués du sceau de l'infamie, groupe punk. Or, eux-mêmes l'ont souvent dit et répété, ils ont coïncidé dans le temps mais pas dans l'intention. Et qu'est-ce qui les différenciait du reste des groupes de l'époque ? D'abord, ils avaient déjà un certain âge. En 77, trois des membres étaient presque tous trentenaires, tandis que le batteur, Jack Black, frôlait, lui, les 40. D'autre part, eux savaient jouer. La plupart avaient une vraie formation musicale, classique ou jazz, et certains avaient déjà fait partie de groupes de rock progressif. De plus, en 77, les Stranglers avaient déjà 3 ans de concerts derrière eux, concerts dans lesquels il n'était pas rare de voir dans leur public des gens qui, un an ou deux plus tard, deviendraient des icônes du mouvement comme Chrissy Hynde, Johnny Rotten ou Joe Strummer. Et pour finir, dès le départ, ils se sont retrouvés ostracisés par certains médias anglais et une grande partie de la faune punk, entre autres, mais pas seulement, c'est une longue histoire, après que Jean-Jacques Burnel, le bassiste des Stranglers, eut pété le nez de Paul Simonon, bassiste des Clash, lors d'une altercation probablement éthylique, mais aussi de John Savage, journaliste musical qui avait eu l'indélicatesse de parler mal de leur second album, No More Heroes. Faut dire que le Burnel avait le sang chaud et était un peu tatillon avec ce qu'on disait d'eux, et puis, en tant que Français né en Angleterre, il avait passé sa jeunesse sur les tatamis à enfiler des ceintures de karaté de toutes les couleurs avant de ceindre la noire, histoire d'avoir du répondant lorsqu'on se gaussait de sa condition de froggy. Top là Jean-Jacques, slap me five. Mais toutes ces anecdotes, dans le fond, c'est pour faire joli. La vraie raison pour laquelle on ne peut décemment leur coller l'étiquette punk sur le perfecto à clous, c'est tout bêtement parce qu'ils jouaient autre chose. Du rock, donc. Du rock bien à eux, certes, mais du rock. Prenons le claviériste du groupe, malheureusement décédé il y a un an après avoir attrapé cette de Covid. Pièce essentielle des Stranglers, Dave Greenfield les a littéralement sauvés à une époque où ils songeaient à laisser tomber après avoir enchaîné 24 refus de maisons de disques de publier leur premier album. Ces mélodies au clavier sorties de nulle part les a soudés, les a tirés vers le haut et en a fait une bande à part avec un son à part. Dave Greenfield, c'était ça, petite sélection d'extraits de morceaux des premières années, avec ce son tellement particulier, pas très punk tout ça. Prenons ensuite le cas Jean-Jacques Burnel, le bassiste au sale caractère légendaire. Jusqu'à l'arrivée des Stranglers sur la scène rock'n'roll, jamais la basse n'avait eu un tel protagonisme. Sur les premiers albums du groupe, elle est omniprésente dans la quasi-totalité des morceaux et jouée très en avant, raflant souvent la vedette à la guitare. Écoute-moi plutôt ces quelques extraits, pas très punk non plus tout ça. Derrière Burnel, le king de la basse, assis à la batterie, on trouvait Jet Black, vendeur de glace ambulant et à l'origine du groupe. Musicien de jazz, un jour il a embrassé la cause du rock lorsqu'il s'est rendu compte que, ouvrons les guillemets, Le rock, au contraire du jazz, ce n'était pas la vieille recherche ennuyeuse de virtuosité inutile, c'était une musique innovante, maligne et excitante. Fermons les guillemets. Top la Jet Black, Slap Me Five. Et puis bien sûr, Hugh Cornwell au chant et à la guitare. Une voix reconnaissable entre toutes, bien qu'à la guitare il n'était pas en reste, voici l'un de mes passages préférés, tiré de leur version de Walk On By, une chanson originellement interprétée par Dionne Warwick. Probablement n'est-il pas resté dans les annales comme un guitariste de légende, mais il faisait seulement le job. Et donc, voici nos quatre Lascars lancés en 77 avec Gratus Norvegicus, un premier album bien accueilli par le public, suivi de trois autres dans la foulée, dont mon chéri No More Heroes, On y vient, on y vient. Malheureusement, le cinquième, The Gospel According to the Men in Black, concept album entre ésotérique et mystique, est un gros échec et les mène au bord du gouffre. Il faut dire qu'à cette époque, ils accumulent les déboires, dus en partie à leur consommation excessive de substances délétères, ce qui vaudra à Hugh Cornwell de faire de la prison. Il y a aussi le fameux concert de Nice où, trompé par l'organisation et devant jouer dans des conditions de son déplorables, Burnell finit par appeler à l'émeute et le public forcément ne se fait pas prier. Résultat des courses, des dégâts estimés à 300 000 francs de l'époque et une courte incarcération pour le bassiste. Du coup, est-ce dû à une subite prise de conscience aiguë de l'impasse dans laquelle il se trouve ? Toujours est-il qu'avec le sixième album, La Folie, ils amorcent un virage pop salutaire pour leur santé physique et économique. Le disque contient le fameux Golden Brown, le seul morceau du répertoire du groupe à avoir été composé par Dave Greenfield, au clavecin s'il vous plaît, et auquel personne ne croyait, ni leur maison de disques, et encore moins les médias qui la clouèrent au pilori. Heureusement que le public a meilleur goût que tous ces crétins ineptes, la chanson s'est très vite imposée en Europe. Aujourd'hui, c'est de loin leur titre le plus joué en radio et réclamé en concert.
Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown.
À partir de La Folie, le groupe enchaîne les albums avec un nouveau son. La basse se met en retrait, la batterie emprunte de plus en plus aux percussions venues d'ailleurs, la guitare se veut apaisante et la voix moins agressive. Feline, sorti en 83, et suivi d'une tournée triomphale qui en fait des rois éphémères, on les voit jouer devant parfois 10 ou 15 000 personnes, une notoriété aussi subite qu'impensable un an auparavant. L'année suivante, c'est le tour de Oral Sculpture, un peu gnagnant, puis en 86, Dreamtime, l'album à partir duquel les Stranglers et moi on s'est séparés pendant longtemps. D'autant que quelques années après, Hugh Cornwell finit par abandonner le groupe, lassé de l'agressivité rampante de Burnell, qui finit un jour par l'emplâtrer contre le mur d'une chambre d'hôtel lors d'une tournée en Italie, un mawashigiri parfaitement exécuté. Dans cet album, on pouvait y trouver l'autre tube du groupe, Always the Sun. Après ça, la formation connaît beaucoup de changements, au gré des sorties de disques de plus en plus anonymes. Aujourd'hui, de la formation initiale, il ne reste plus que Burnell, fidèle au poste. Jet Black ne joue plus en raison d'une santé déclinante, et Dave Greenfield n'est plus de ce monde. Pourtant, le 10 septembre 2021, est sorti un nouvel opus, Dark Matters, rock'n'roll comme au premier jour, surprenant d'énergie et de fraîcheur, entré directement à la 4e place des charts anglais, ce qui n'était plus arrivé depuis Feline. This Song. Et voilà, c'est fini pour les Stranglers. Et tu te dis, quelle chanson tu veux nous mettre, gros naze ? Et je te réponds, No More Heroes, bien sûr, l'une des 4 ou 5 chansons de ma jeunesse. À chaque écoute, je me revois, adolescent qui s'ennuyait ferme en vacances punitives à Édimbourg en 80, à l'étage de ce vieux théâtre d'où je surplombais, émerveillé, des centaines de chevelures de toutes les couleurs, se mouvant au rythme des chansons des Stranglers, la première des 6 fois que je les ai vues en concert. Ah, une dernière anecdote, et c'est si je l'adore, No More Heroes est sorti le 23 septembre 1977, le même jour, tiens-toi bien, que cette autre chanson de David Bowie, appelée Heroes. No More Heroes, Heroes, que chacun choisisse, allez dans la paix d'Elvis. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe. Whatever happened to Leon Trotsky? Et voilà, that's all folks. Pour me contacter, me dire que vous avez adoré, ou pas du tout, mais j'y crois pas, ou encore suggérer un artiste pour un prochain épisode, écrire à contact@lavoixdessillons.com. Ah, j'oubliais, j'ignore sur quelle plateforme tu écoutes La Voix des Sillons. Sur certaines d'entre elles, comme Apple, Podcast Addict et quelques autres, il est possible de laisser un commentaire. Je veux dire, un bon. Merci, hein.